radio du Chemin Rouge.
Bonjour auditeurs et auditrices, bienvenue pour un nouveau podcast où aujourd'hui nous allons échanger autour de l'insertion professionnelle. À la suite des dernières réformes, il est nécessaire de mettre en place différentes méthodes d'accompagnement afin de s'adapter aux usagers pour leur assurer une transition vers le monde professionnel. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui avec une invitée travaillant en tant que CIP, conseillère insertion professionnelle. Je te laisse te présenter.
Alors bonjour, moi c'est Natacha. Je travaille à la Chambre de métiers et de l'artisanat en tant que conseillère en insertion professionnelle, mais dans un accompagnement spécifique car j'accompagne les personnes bénéficiaires du RSA. Donc dans la découverte des métiers de l'artisanat.
Bon ben moi c'est Jonathan, j'ai 39 ans et je suis jeune papa d'un petit garçon qui s'appelle Lucien qui a 5 ans et demi.
Et nous avons également avec nous, pour animer également...
Jordan, donc moi en fait je suis stagiaire pour devenir donc comme Natacha, conseiller en insertion professionnelle. Et donc là je suis en stage avec Alexandra qui travaille ici donc au Chemin Rouge.
Jonathan, Jordan, je vous laisse du coup poser les questions à notre jeune invité.
Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et auditrices en fait qu'est-ce que le métier de CIP en fait ?
Oui. Donc le métier de conseillère en insertion professionnelle, c'est vraiment pour des personnes qui soit sont en reconversion professionnelle et cherchent un nouvel objectif professionnel et on va les accompagner dans l'élaboration de leur projet. Mais ça peut être aussi pour des personnes sans emploi depuis assez longtemps, qui sont éloignées complètement du monde professionnel. Et ça peut aussi bien être sur des jeunes qui sont déscolarisés ou même... Qui sont en cours d'études et qui se posent des questions et pareil, qui ont besoin en fait d'être aiguillés sur qu'est-ce qui existe et comment on peut les accompagner au mieux. Et c'est vraiment, dans le monde de l'insertion professionnelle, on appelle ça un maquis parce qu'il y a tellement de structures et de dispositifs que souvent les personnes se perdent. Et c'est là où le conseiller en insertion professionnelle, il peut orienter au mieux par rapport à la problématique rencontrée par la personne.
D'accord.
Et comment le métier vous est venu ?
Ça, c'est une longue histoire. Mais moi, j'ai commencé dans l'animation pour enfants jusqu'aux personnes âgées. Je me suis spécialisée dans l'handicap et j'aimais bien accompagner vers l'autonomie. En fait, peu importe le public, mais c'est qu'il gagne en autonomie et qu'il soit fier de ce qu'il fait. Et après, ben, ce métier-là de l'animation, ben, je trouvais qu'il était assez précaire. Et donc, je me suis réorientée vers la vente. Et la vente, bon, c'est bien, mais moi, le côté je dois vendre, ça, au bout d'un moment, ça me frustre et j'ai envie plutôt d'aider les gens. Et donc, je suis retournée vers le social un peu. Et d'arriver à un point où les gens se posent des questions et trouver une voie, ben, ça m'a paru une évidence pour moi de leur redonner confiance et de dire que s'ils veulent faire leur projet, ben, ils peuvent y arriver. C'est juste comment on trouve les ressources et comment on va les chercher. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Surtout que plein de gens dans l'insertion ont leur spécialité et on peut trouver une réponse à toutes les problématiques pratiquement.
D'accord. Quelles sont les qualités pour devenir un CIP de qualité en fait ?
Je pense qu'une des premières qualités, c'est l'ouverture d'esprit. Je pense que si on arrive devant une personne et qu'on a des préjugés, on ne va pas l'aider. Si on la regarde déjà en se disant que cette personne, elle ne vaut rien, ben... elle ne va pas arriver quelque part. Donc déjà, c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'écoute, savoir écouter les personnes, comprendre leurs problématiques, ce qu'ils vivent en ce moment, et savoir absolument travailler en équipe. C'est-à-dire de ne pas se dire « moi, je vais pouvoir tout faire », c'est non, chacun a sa spécialité et je vais aller chercher la compétence pour aider au mieux la personne qui en demande. Et c'est la polyvalence. Il faut savoir faire plein de choses. Il faut être autant savoir accueillir en individuel et pouvoir mettre la confiance pendant un entretien que animer des ateliers pour, par exemple, la conception d'un CV ou faire des simulations d'entretien d'embauche. C'est aller faire des réunions d'information sur les dispositifs, sur les emplois, faire des forums. Donc, ça demande énormément de polyvalence, je dirais. Et il faut forcément être un peu social.
Merci donc pour cette réponse. Et vous, en tant que CIP, donc, est-ce que vous sentez des changements qui, enfin, votre métier qui est en train de changer ou des changements en rapport avec le métier ?
Alors moi, je suis passée conseillère en insertion de professionnels depuis longtemps et je suis arrivée déjà pendant le changement, c'est-à-dire il y a un an. Et c'est vrai que là, on est sur une politique qui veut, bah, comme on l'entend dans France Travail, que tout le monde aille au travail. Après, il y a des problématiques chez chaque individu où ils ne sont pas aptes à aller au travail dans les 3 mois, mais il va falloir des parcours un peu plus longs sur du 1 an, 2 ans. Mais on sent que politiquement, voilà, on nous pousse à mettre les gens à l'emploi. Moi, ma philosophie personnelle, c'est que je préfère mettre quelqu'un à l'emploi qui aime le travail qu'il va faire pour qu'il reste dans la durabilité. Ça veut dire qu'il ne va pas abandonner au bout de 2 semaines, que plutôt de l'envoyer en restauration et qu'il lâche son poste au bout d'une semaine. Voilà. En tout cas, c'est moi comme ça que je le vois. Donc, j'essaye de trouver un équilibre entre la demande de la politique et le besoin de la personne et son épanouissement. Et je pense que la personne, si elle trouve sa voie, eh ben, elle va se donner dans son travail. Et après, je suis... Enfin, je crois vraiment qu'il n'y a pas de sous-métier et que j'ai déjà rencontré des personnes, par exemple en agent d'entretien, qui adorent leur métier parce qu'ils rendent service. Moi, c'est vraiment la personne, quelles sont ses qualités, quelles sont ses compétences, et on va l'accompagner dans ce projet. Ouais. Donc voilà, c'est tout un jeu d'équilibre, je dirais.
Merci.
Une autre question. Avez-vous déjà travaillé avec le Chemin Rouge ou une autre structure sociale ?
Tout à fait. Avant mon poste à la Chambre des métiers et de l'artisanat, je travaillais dans un centre social à M. Ça s'appelle le centre social des trois villes. Donc, sa particularité, c'est qu'elle touchait trois villes. Souvent, un centre social, ça touche un quartier. Mmh. Nous, on était sur l'Isle-et-Lanois, M et Roubaix. Donc, c'est vraiment trois villes différentes. Mais voilà, j'étais référente RSA. Donc, référente RSA, c'est vraiment pour tous les allocataires du RSA. Aujourd'hui, ils ont l'obligation, s'ils perçoivent le RSA, une obligation d'aller vers l'emploi ou d'aller vers l'insertion. Donc on appelle ça l'insertion socio-professionnelle parce que certaines personnes allocataires du RSA vont être directement, on va dire, employables d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes. Mais d'autres, je vais prendre un exemple, qui ne savent pas encore parler la langue française, eh bien pour aller travailler, passer un entretien d'embauche, c'est tout bête, mais s'il ne comprend pas les questions et qu'il ne peut pas y répondre, il ne va pas être pris. Donc on va passer par des fois des cours de français en amont, ou pour des mamans qui ont des difficultés pour faire garder les enfants, c'est trouver des solutions pour la garde d'enfants pour qu'elles soient disponibles. Et ça, c'est ce qu'on appelle les freins périphériques à l'emploi. C'est tout ce qui freine la personne dans sa vie personnelle pour aller à l'emploi. C'est des fois, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est que les choses de la vie les empêchent en fait, d'aller à l'emploi. Et nous, c'est de trouver des solutions pour lever ces freins. Et donc voilà. Et quand on travaille dans une structure sociale, on accompagne beaucoup plus des personnes avec énormément de freins. Il faut savoir encore une fois les écouter, les comprendre et qu'ils reprennent confiance en eux parce que souvent on les a marginalisés, on les a laissés sur le côté. Et aujourd'hui, on leur met un coup de bâton en disant allez au travail alors que ça fait 20 ans qu'on les a oubliés. Travailler dans une structure sociale, c'est intéressant parce qu'on peut leur redonner confiance et leur dire, nous, on est une porte ouverte. Peut-être qu'à la CAF, enfin, des fois, c'est bête, hein, mais la CAF Pôle emploi, on vous a mal accueilli, mais ici, on va faire différemment. Mmh. Voilà.
Pour la dernière partie, j'aimerais qu'on voit ensemble de quelle manière vous pourrez accompagner donc, ces personnes. Donc, on va faire un genre d'étude de cas. Imaginons on a Brian, 16 ans, donc, qui est déscolarisé et qui est en recherche d'une expérience professionnelle. Comment vous pourriez l'accompagner ?
Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un maquis, l'insertion professionnelle. Donc chacun a un petit peu ses publics et ses missions. Et pour un jeune qui est ni scolarisé, ni diplômé, ni à l'emploi, ce qu'on appelle les NEET, il faut qu'ils aillent à une mission locale. Il faut vraiment qu'ils se rapprochent d'une mission locale. Eux, c'est leur public, c'est du 16 ans à 25 ans, voire 29 ans s'il y a RQTH. Donc RQTH, c'est des personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance. Et là, il va avoir vraiment des services dédiés aux jeunes. Et une première expérience professionnelle à partir de 16 ans, ça peut être un service civique. On peut demander des dérogations pour faire un service civique. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a plein de missions. Mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des stages en immersion, des PMSMP, période de mise en situation en milieu professionnel. Et donc là, c'est gratuit et pour l'entreprise. Et c'est sur 1 ou 2 semaines et on peut du coup, découvrir à partir de ces stages en immersion plein de métiers. Et là, c'est intéressant aussi pour le jeune, parce que souvent, quand on est jeune, on demande à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire ? Mais on se connaît soit ce qu'on a vu comme travail au travers de notre expérience, et elle est souvent l'école, là où ses parents. Mais il y a plein de métiers qui existent et qu'on ne connaît pas, et c'est au conseiller mission locale de dire, regardez toutes les possibilités qu'il y a, et allez-y, quoi, on veut vous accompagner à faire de la découverte métier.
D'accord. Parlons d'une personne un peu plus âgée. Donc, par exemple, on va prendre Jacqueline, 50 ans, bénéficiaire du RSA, qui souhaite trouver quelque chose pour arrondir ses fins de mois. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller à cette personne ?
Déjà, les bénéficiaires du RSA, vous avez entendu tout à l'heure que maintenant, il y a une obligation d'accompagnement. Donc, elle aura forcément un référent RSA ou un coach emploi. Donc, ça, c'est le département, ou un conseiller Pôle emploi. Et donc là, on va travailler un petit peu. Madame a 50 ans, elle a forcément eu de l'expérience dans sa vie. Et c'est pas forcément professionnel. C'est-à-dire que c'est une dame qui a élevé 4 enfants. Eh bien, elle a des compétences de mère au foyer. Il faut pas les sous-estimer. C'est sûrement quelqu'un qui a dû s'organiser. Parce que quand on a 4 enfants, c'est de l'organisation. Elle a sûrement une méthodologie pour le niveau du ménage, pour préparer des repas, etc. Donc il y a déjà des métiers qui s'ouvrent. Je pense à assistante de vie, où c'est un peu des compétences qu'il faut pour ce métier. Mais après, on va travailler avec elle pour voir quelles sont ses possibilités, est-ce qu'il faut une formation ou pas. Pareil, la PMSMP, et trouver un emploi, on peut commencer sur un mi-temps, voire, je ne sais pas si vous connaissez les SIAE, donc structure d'insertion par l'activité économique. Et donc ça, c'est pour des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps. Eh bien, on peut les orienter vers ACI, atelier chantier d'insertion. Et ça, c'est des emplois qui sont souvent sur des 20 heures, 24 heures. On va dire que le travail, il est pas dans la rentabilité. Ça veut dire qu'on pratique un métier. Je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus parlant. Par exemple, à la gare, il y a un atelier vélo. Eh bien, c'est un ACI, il répare des vélos. Mais c'est tout lent. Ce que je veux dire, c'est qu'on y va doucement, on apprend à réparer des vélos, on les vend, on les prête à des centres sociaux, etc. Et ça leur permet de réapprendre à venir à l'heure. Par exemple, s'ils n'ont jamais eu de travail, peut-être qu'ils se disent d'arriver une demi-heure en retard, c'est pas très grave. On réapprend à travailler en équipe, etc. Et à l'intérieur de ces dispositifs, ils ont un accompagnement pour aller vers une formation ou vers un emploi. Et ça, les ACI, il y a dans plein de domaines. Ça peut être dans la réparation vélo, dans l'agent d'entretien, dans les espaces verts. Souvent, quand vous voyez les personnes faire les espaces verts, c'est souvent des personnes en réinsertion et qui font partie des ateliers chantiers d'insertion. Ça peut être agent d'entretien, ça peut être tout ce qui est friperie, etc. Il y a vraiment dans tous les domaines. Et sur ça, il faut aller postuler sur Beta Inclusion. c'est les emplois de l'inclusion. Et ça, tout le monde peut se postuler individuellement sans être accompagné. Et souvent, ces emplois-là demandent aucune formation et aucune expérience professionnelle. Donc, ça peut être une bonne chose pour commencer et avoir une expérience pro.
D'accord. Par contre, moi, j'ai une autre question.
Oui.
Tout à l'heure, vous parliez de freins qu'on peut voir.
Oui.
Mais il y a des freins qu'on ne voit pas forcément, qui sont peut-être plus psychologiques.
Oui, tout à fait.
Moi, je connais une personne, en fait, qui psychologiquement, ça ne va pas. Mais en fait, il s'est aperçu en fait au fil d'ateliers collectifs et tout, en fait, qu'il s'est appris d'affection en fait à aider les personnes qui sont dans son cas en fait. Concrètement, par exemple, ça peut être le stress, la colère et tout. Et en fait, il se demande en fait s'il pourrait en fait travailler en fait là-dedans en fait. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ?
Alors, tout à fait, faut qu'il Ça, c'est pareil. Il faut qu'il ait vraiment quelqu'un qui l'accompagne dans son projet. Et je reprends les stages d'immersion. C'est de voir quelle structure fait ce genre d'accompagnement. Parce que c'est sûr, quand on voit les levées de freins psychologiques, on pense tout de suite à devenir psychologue. Mais ça, c'est la grande porte. Et moi, je dis, il y a toujours d'autres accès pour être dans cet accompagnement-là. Et donc, faire des ateliers pour de remise en confiance, etc. Et donc, ça, on peut devenir animateur. On peut aller vers les métiers comme CIP, où, par exemple, moi, je connais une personne qui a été formée en même temps que moi et qui, aujourd'hui, anime des ateliers. Elle ne fait que de l'animation d'ateliers pour de la remise en confiance des personnes. Et effectivement, le frein psychologique, c'est quelque chose qu'on rencontre énormément. Par exemple, moi, j'ai été formée au premier secours en santé mentale, c'est-à-dire tout ce qui est crise d'anxiété, crise d'angoisse, agoraphobie, etc. Et on sait que ça touche particulièrement les femmes et les gens en précarité. Pourquoi ? Parce que quand on ne sait pas comment on va finir le mois, comment on va manger, eh ben, on a beaucoup plus de stress qu'on accumule en soi plutôt qu'une personne où tout va bien et on sait qu'on va finir le mois. Donc c'est vraiment un frein très grand chez les personnes qui sont en précarité et donc qu'on doit travailler. Et effectivement, ça se fait à travers d'ateliers ou d'un suivi psychologique ou mettre en place des groupes de parole. Mais je conseillerais à cette personne de voir son conseiller en insertion professionnelle et de voir tous les métiers qui accompagnent, que ce soit en collectif ou en individuel, et qui pourrait pratiquer avec le minimum de formation ou s'il est prêt à faire des études longues. Mais ça, c'est à voir avec la personne, ses capacités D'accord. et ses envies.
Ben merci.
Je vous en prie. Il n'y a pas d'autres questions ?
Pour le moment, non.
Oui, la chambre de métier de l'artisanat, la CMA. Souvent, on a une méconnaissance en fait de cette structure parce que on pense que c'est vraiment vrai que pour les artisans. Mais on est vraiment ouvert et on est avant tout un centre de formation et on l'oublie. Donc nous, à la CMA, on est aussi un CFA, ce qu'on appelle un centre de formation pour apprentis. 80% d'apprentis chez nous et 20% de formation adulte. Donc, pour des gens qui ont envie, en tant qu'adultes, de se reconvertir, on est aussi ouvert. Et donc, on fait plusieurs métiers. Je vous en fais une petite liste non exhaustive, mais on aura fleuristerie, on aura photographe, on n'y pense pas, mais voilà. Prothésiste dentaire, on a une des meilleures formations sur la région. C'est un métier hyper méconnu, mais il y a du travail après. Boucher, boulanger, charcutier traiteur, pâtissier, coiffeur, esthétique. C'est vraiment des métiers que nous, sur la métropole, on propose. Et j'adore, moi, l'artisanat. Pourquoi j'ai été là-bas ? Parce que je trouve que c'est beau de pouvoir fabriquer quelque chose. Au début, on part de rien. Et à la fin, on a une réalisation, on voit ce qu'on a fait. Et surtout qu'on peut aller sur les meilleurs ouvriers de France, des choses comme ça, où vraiment, après, on a un niveau. Et puis, c'est un savoir-faire français pour la plupart des métiers qu'on propose. Et c'est bête, mais beaucoup de nos apprentis ont l'idée d'aller à l'international. Parce qu'ouvrir une pâtisserie à l'international française, ça fonctionne en fait. Ouvrir une boulangerie à l'international, ça fonctionne. Et donc en plus, l'artisanat permet d'être autant employé de grandes structures industrielles ou pour les hypermarchés, etc. Mais on peut travailler pour un petit artisan, on peut ouvrir sa boîte. Et puis on peut faire soit du domicile, soit avoir son local, mais il y a vraiment plein de possibilités. Et à la fin, on peut, comme m'a dit un formateur, on peut passer sa vie à la CMA, c'est-à-dire être formé, devenir employé, ouvrir son entreprise, et puis devenir à nouveau formateur à la CMA pour transmettre. Et c'est des jolis parcours qu'on rencontre, et souvent des gens fiers de ce qu'ils font.
Est-ce que vous pourriez donner quand même l'adresse du centre de format du CMA ?
Alors... on a 3 centres. Donc on a le siège, alors c'est assez incroyable, je le dis quand même, on a le siège régional, hein, donc sur la région des Hauts-de-France, donc il y a la Picardie, la Somme, les Pas-de-Calais. Nous, on est le siège à Lille. Donc c'est 17 places des artisans. C'est derrière Porte d'Arras, le métro. Normalement, vous connaissez si vous écoutez là, ce podcast. Donc on est tout près, on est à côté du commissariat. Non, c'est pas le commissariat, non, je me trompe, ça c'est à...
Il est un peu plus loin, le commissariat.
C'est le millénium.
Ah, on est quand même assez loin, le millénium.
Non, donc non, c'est les deux ronds-points différents.
C'est juste avant le pont qui mène à Porte d'Arras.
Ouais, c'est ça. On passe
juste
le périph.
Avant là.
Et donc il y a celui-là, et après on a 2 centres de formation à Tourcoing. Le Virolois qui est 17 rue des Pias et le CEFMA, mais je me souviens plus de l'adresse.
Eh bien, je vous remercie Natacha d'être venue, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau podcast sur la web radio du Chemin Rouge. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Radio du Chemin Rouge.
Bonjour auditeurs et auditrices, bienvenue pour un nouveau podcast où aujourd'hui nous allons échanger autour de l'insertion professionnelle. À la suite des dernières réformes, il est nécessaire de mettre en place différentes méthodes d'accompagnement afin de s'adapter aux usagers
pour leur assurer une transition vers le monde professionnel. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui avec une invitée travaillant en tant que CIP, conseillère insertion professionnelle. Je te laisse te présenter.
Alors, je suis Guylaine, je suis conseillère en insertion socio-professionnelle pour Impulsion Métropole Sud. Impulsion Métropole Sud, c'est une fusion entre l'office intercommunal qui était basé sur Fâche-Thumesnil, rue Carnot, la mission locale de Fâche-Thumesnil et de toute la métropole sud, et la maison de l'emploi de Ronchin. Donc nous avons fusionné en janvier 2023.
D'accord.
Donc merci Guylaine d'être venue. Donc on aura quelques questions pour vous, pardon. Donc la première, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que le métier de CIP ?
Alors, CIP, c'est conseillère en insertion professionnelle. Donc moi, je suis CISP, conseillère en insertion socio-professionnelle, ce qui nous permet d'avoir un accompagnement global pour nos participants. C'est-à-dire, quand on accompagne un participant, on ne l'accompagne pas que sur la partie professionnelle, mais dans sa globalité, c'est-à-dire avec toutes les problématiques sociales, les freins sociaux qui peuvent y avoir à côté et qu'on va essayer de lever tout en travaillant l'insertion pro.
Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier dans...
Alors là, moi, je suis arrivée là un peu par hasard. Donc, j'étais formatrice français langue étrangère à l'étranger. Je suis revenue en France, je suis devenue à nouveau formatrice. Mais comme en France, il faut des diplômes pour être formateur. Chez nous, à l'office intercommunal, donc j'étais déjà à l'office, il y avait une passerelle possible entre le métier de formateur et le métier de CIP. Donc, je suis devenue CIP sur le territoire de Mons-en-Barœul.
D'accord. Ça marche. Et d'après toi, quelles sont les qualités pour être un bon CIP ?
Alors j'ai envie de dire, faut aimer les gens, évidemment. Il faut beaucoup d'empathie. Il faut de la rigueur, il faut de l'organisation, il faut une très bonne mémoire. Et voilà, et je vais revenir sur beaucoup d'empathie, surtout.
Avec les changements récents de réforme, tout ça, est-ce que tu ressens, toi, des changements dans ton métier ces derniers temps ?
Complètement, et j'ai été directement impactée parce que le département a lancé un appel à projet pour l'accompagnement des allocataires du RSA. Nous avons répondu à cet appel à projet. Depuis septembre 2022, je suis donc devenue référente RSA sur le territoire de Fâche-Thumesnil. Donc effectivement, ça change beaucoup de choses. Auparavant, alors je suis toujours référente PLI parallèlement, en même temps. Hein, les gens que j'accompagne sont dans le PLI, Plan Local d'Insertion et d'Emploi. Merci. C'est un dispositif qui est national, hein, qui existe sur tout le territoire français. Donc auparavant, au PLI, c'était plus souvent des gens qui tapaient à la porte, qui avaient besoin d'aide, donc qui venaient volontairement. Maintenant, ce sont des orientations des allocataires RSA du département. Donc ces allocataires sont un peu, je vais mettre entre guillemets, mais contraints et forcés de venir dans nos bureaux. Donc oui, ça change complètement l'accompagnement.
Donc là, on va en venir à la dernière partie, donc sur l'étude de cas.
J'en ai peut-être une avant. Ouais, est-ce que avec ton métier, tu as eu l'occasion de travailler avec des associations, par exemple, comme le centre social ou d'autres structures?
On travaille évidemment avec les centres sociaux, surtout depuis le plateau. Le plateau, c'est le dispositif sur lequel on accompagne les allocataires du RSA. Ils sont accompagnés par donc un CIP. Donc sur Fâche, ce sera moi, plus une assistante sociale du CCAS de Fâche. On travaille évidemment avec tous les organismes de formation, avec Pôle emploi, avec tous les partenaires sociaux, les associations, notamment Défense des étrangers, etc. Ça, en ce moment, les problèmes de préfecture, on y est souvent. Voilà, on travaille avec tous les partenaires du territoire.
Oui, c'est vraiment un contact, pas seulement avec
l'entreprise,
les clients, mais avec tous les mondes tout autour.
À fait, tout à fait, parce qu'on est amené à faire encore beaucoup de social, même si on a l'aide de l'assistante sociale. Voilà, vu la situation actuelle en France, je peux me permettre de dire que les CCAS sont débordés, hein, ont de multiples demandes. Donc nous, et comme nous, on est dans un accompagnement global, et bien on continue à faire du social aussi. Bien évidemment, je laisse les gros dossiers à l'assistance sociale.
Donc pour la dernière partie, donc on va voir ensemble deux études de cas. Donc par exemple, comment pourrais-tu accompagner Brian, 16 ans, déscolarisé qui en recherche une expérience professionnelle ?
Alors, moi, je suis plus spécifiquement sur l'accompagnement des adultes, puisqu'il faut qu'ils soient bénéficiaires du RSA, mais je me suis un petit peu renseignée quand même. Donc, Brian, 16 ans, il est effectivement en décrochage scolaire. Donc, il y a un dispositif au sein de la mission locale sur le décrochage scolaire. Donc, ce jeune peut être pris en charge déjà, peut soit intégrer un CEJ, contrat engagement jeune, où il y aurait une rémunération suivant la situation des parents. Ensuite, il y a possibilité de mettre ce jeune en formation, et des formations à l'AFPA dédiées aux 16-18 ans. Et ensuite, pour les formations qualifiantes, évidemment, ce jeune aura besoin d'attendre ses 18 ans pour entrer en formation qualifiante. Après, il y a l'apprentissage, enfin, il y a plein de choses possibles à 16 ans. Hein. Donc moi, je l'orienterai directement sur la mission locale.
Ok. Vas-y, vas-y.
Et dans un profil peut-être plus proche de ce que tu vis, quelqu'un bénéficiaire RSA, disons Jacqueline, 50 ans, qui souhaite trouver quelque chose pour pouvoir arrondir les fins de mois en plus du RSA.
Alors, en plus du RSA, ça devient compliqué parce que ça va venir. Alors le RSA, il y aura toujours un complément si cette dame travaille. Donc déjà, je la recevrai, je verrai avec elle son projet professionnel, ses besoins financiers, son état de santé évidemment, voir si elle peut démarrer un emploi à plein temps, mi-temps, quart temps. Ça dépendra de sa formation également. Est-ce qu'il faut envisager une formation qualifiante? À 50 ans, c'est encore possible. Du métier, enfin, ça dépendra de son projet professionnel.
Mais voilà, adapté à chaque.
Tout à fait. Donc, suivant évidemment toutes ces questions que je viens d'évoquer, ça peut être d'abord une formation en remise à niveau qui serait rémunérée avec des stages durant cette formation pour définir le projet et aller voir un peu ce qui se passe dans les entreprises. Ensuite, ça peut déclencher sur une formation qualifiante ou on peut aller directement vers l'emploi suivant la situation de madame.
D'accord. Bah, merci beaucoup d'être venue, d'avoir répondu à nos questions.
Merci à toi.
Au revoir.